de nouvelles personnes. Les choses anciennes sont passées, toute chose devient nouvelle. Je crois que le plus beau jour de notre vie est le jour où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Et hier, je me suis réjoui, avant-hier aussi, en voyant ces jeunes s'approcher de Dieu, ces jeunes confier leur vie à Dieu, faire un pas de foi, prendre une décision. Je me suis réjoui parce qu'ils ont pris une décision qui va durer jusqu'à dans l'éternité. Alors, je suis un peu rapide parce que je suis bridé dans le temps. Prenez la lecture avec moi, s'il vous plaît. Marc 5, versets 1 à 20. Je vais vous la faire, soyez attentifs. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur, » et il lui demanda, « Quel est ton nom? Légion est mon nom, » lui répondit-il, « car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, et ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Prions un instant. Seigneur, nous te remercions pour ce temps, ce moment que nous passons dans ta présence. Nous croyons, Seigneur, que tu as des choses à nous partager et à nous révéler ce matin. Nous voulons nous laisser faire par ton esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu parmi nous et interpelle, corrige, enseigne, impacte, édifie notre cœur, notre vie. Que réellement, ce matin, nous puissions repartir avec des certitudes, des convictions quant à ta parole et à notre position devant toi. Seigneur, parle, tes serviteurs, écoute. Que le peuple de Dieu dise Amen. Le mot Gadara veut dire ce qui est entouré d'un mur. Et il nous est dit que cet homme avait établi sa demeure dans les sépulcres. Ces tombes qui étaient à l'époque taillées dans la roche étaient devenues sa résidence principale. Psychologiquement, il était ravagé, aliéné, complètement démonisé. C'était un réel danger pour les habitants. Et vu qu'il avait un véritable problème comportemental, eh bien, la seule solution que les habitants ont trouvé pour résoudre son problème a été de le lier avec des chaînes et avec des fers. On lui a mis les fers aux pieds, on l'a lié, entouré de chaînes. Mais il nous est dit que lorsque cet homme était pris de ces terribles assauts démoniaques, il avait la force de rompre les fers, il avait la force de briser les chaînes. Et chaque jour était un véritable calvaire pour lui. Il criait, se meurtrissait avec des pierres comme pour évacuer une douleur, une souffrance intense qui le ravageait au fond de son âme. Aujourd'hui, 21 siècles plus tard, la chair ne saurait s'améliorer, la chair ne saurait être en porte-à-faux avec ce que le diable lui demande. Pourquoi ? Parce que la chair est appâtée par tout ce qui est mauvais. Celui qui veut plaire à Dieu doit marcher par l'esprit, et l'esprit de Dieu domine la chair, et l'esprit de Dieu conduit l'homme à plaire à Dieu. Et sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. La chair est complètement attirée, appâtée, asservie par tout ce qui est mauvais, et ceci depuis la transgression adamique. Et la société aujourd'hui ne manque pas de mouvements, de méthodes pour à son tour réfréner, stopper le débordement de la chair. Par exemple, nous avons des prisons où nous incarcérons des personnes qui marchent à l'encontre de la justice. Nous avons des centres de désintoxication où nous internons des personnes qui sont liées par certaines addictions. Nous avons des centres psychiatriques où nous internons des personnes qui ont des problèmes, des troubles psychologiques. Mais toujours est-il, lorsque nous faisons le bilan de tout cela, eh bien très vite, on s'aperçoit qu'en prison, il y a ce qu'on appelle des multirécidivistes. Ce sont des personnes qui sont poussées constamment à transgresser les lois qui régissent notre société. Quand vous discutez avec certains psychiatres, vous allez vous apercevoir qu'il y a certains désordres mentaux tels que la schizophrénie qu'on n'arrive pas à solutionner. On a beau donner des traitements, des thérapies, mais on n'arrive pas à solutionner le désordre mental qui vient troubler cette personne. Si vous discutez avec certaines personnes qui travaillent dans les centres de désintoxication, vous allez vous apercevoir qu'il y a des personnes qui ont fait des cures à n'en plus finir et qui, à un moment donné, s'arrêtent en croyant fermement que jamais ils ne vont retrouver la liberté. J'aimerais vous dire, Éphésiens 6 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ténèbres. Le premier combat pour retrouver la liberté est d'ordre spirituel. Ensuite, intervient les méthodes naturelles de l'homme. Mais le premier combat, la première personne qui lie un homme, qui fait de l'homme un esclave, c'est le diable. La première personne qui tient un homme dans la captivité, qui lie l'homme, c'est le diable. En réalité, lorsqu'on parle de drogue, eh bien la drogue est simplement l'appât que le diable utilise pour asservir, lier un homme. Et à partir du moment, et ça c'est une réalité, à partir du moment où tu te tournes vers Jésus-Christ, je t'assure que tu vas retrouver ta liberté. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Personnellement, mon père était alcoolique, ma mère est alcoolique et je suis né avec un sacré patrimoine génétique et tout était fait pour que je devienne alcoolique. Et ça n'a pas tardé à se manifester puisque à l'âge de 15 ans, je buvais déjà quelques canettes de bière et inutile de vous dire que quelques années plus tard, j'en étais à des litres et des litres de rhum et de rouge chaque jour. Et le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai vraiment cru que cette parole qui nous est dite et que je vous ai dite en introduction dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ et de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées », j'ai vraiment cru que cette parole allait s'accomplir instantanément dans ma vie, mais je me suis trompé lourdement. Pourquoi ? Parce que le diable se faisait un plaisir de m'attirer encore dans le bourbier du péché. Même si j'aimais Dieu passionnément et que j'avais une famille et que j'étais loin d'ingurgiter les litres d'alcool, je vous assure que j'étais lié par l'alcool. Je me rappelle qu'après une bonne semaine de travail, le vendredi soir, lorsque je m'asseyais dans mon canapé, une voix démoniaque se faisait retentir et j'entendais « C'est ton heure, tu as le droit de boire ta petite bière, tu as le droit d'aller à l'épicier, allez, fais-toi plaisir ». J'avais beau lutter, j'avais beau résister, mais à un moment je capitulais, c'était trop fort pour moi. Alors j'allais boire ma petite bière, mais bien sûr la petite bière ne suffisait pas et je terminais encore avec une bouteille de rhum ou je ne sais quoi. Et alors que je m'endormais sur le canapé, ma femme venait me réveiller en me versant une bouteille de rouge et elle me disait « Tu as voulu boire, tu as voulu boire, et bien maintenant des cuves ». Et tous les lundis matin avant d'aller au travail, je me revois encore me prosterner dans mon salon, promettant à Dieu de ne plus jamais recommencer. J'ai « Seigneur, mais pardonne-moi, tu vois bien mon cœur, Seigneur, j'ai beau faire des efforts, mais aujourd'hui c'est la bonne, je fais une alliance, une nouvelle alliance avec toi. J'avais beau implorer, supplier, prendre des engagements devant Dieu, le vendredi d'après, boum ah. Et un soir comme tous les soirs, Je disais à Dieu, mais Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moi qui lisais les livres de personnes qui ont vu leur vie changer, transformée par Dieu, je disais, Seigneur, mais fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et un soir, je me suis endormi en faisant cette prière et j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'allais à l'église en état d'ivresse. J'étais complètement bourré. Et il y avait deux costauds à la porte qui me disent, Yanis, tu es ivre. Rentre chez toi, va décuver. Je commence à argumenter avec eux, à discuter, et très vite, l'église se tourne, se focalise sur moi, et tout le monde voit mon état. Alors me voici en train de rebrousser mon chemin, et je pleure sur mon sort, et là j'entends la voix de Dieu qui me dit, « Mais pourquoi tu es triste, mon enfant? Qu'est-ce qu'il y a ?» Alors je raconte à Dieu ce qui s'est passé. Et je dis, « Voilà, j'étais à l'église, en état d'ivresse, et tout le monde a vu mon péché caché, pas caché. Désormais, c'est fini. Je ne pourrai plus prier, exhorter les gens. Ma crédibilité est réduite en poussière. C'est terminé. Je rentre à la maison. Plus jamais je ne mettrai les pieds à l'église. » Et là, le Seigneur me dit, ce n'est pas fini. J'ai mis un appel sur ta vie. Je veux que tu ailles témoigner ce que j'ai fait pour toi. Je veux que tu ailles crier haut et fort, raconter mes bienfaits dans ta vie. Je dis, mais Seigneur, mais comment tu veux que j'aille témoigner? Comment tu veux que j'aille publier l'évangile alors que moi-même je suis lié, je suis esclave du diable? Le Seigneur me dit, ne dis pas tu es esclave, ne dis pas c'est fini, et pour l'alcool je te libère. J'étais en train de dormir à mon réveil, je me suis demandé, mais est-ce que j'ai vraiment rencontré Dieu? Est-ce que c'est vraiment la main de Dieu qui m'a touché? Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu qui m'a parlé? Et alors que j'ai voulu mettre le pied par terre, je me suis retrouvé bloqué, paralysé au sol. Et j'ai senti le Saint-Esprit descendre, envahir mon être entier. Voilà 10 ans déjà, et je vous assure que depuis ce jour, depuis cette rencontre avec Dieu, je n'ai plus jamais retouché à l'alcool. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Il nous est dit que ce démoniaque, il avait une qualité. Il a vu Jésus-Christ de loin. Et voyez-vous, Jésus-Christ, c'est un homme qui a 3 ans de ministère public. Il est happé par les foules. Il a un message à publier. Mais à un moment donné, il a dû dire à ses disciples, renvoyez les foules, renvoyez tout le monde. Nous allons à Gadara. J'ai entendu les cris de mon enfant qu'on a enfermé dans les tombes, que le diable est en train de détruire. Nous allons dans ce lieu impur. Nous allons à Gadara. Et voici Jésus-Christ fait son apparition. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu vient surabonder, mon frère. J'ai dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu vient surabonder. La grâce de Dieu, c'est le terrain choisi par Dieu pour venir à la rencontre du pauvre pécheur. Et Jésus-Christ apparaît. Et ce démoniaque voit Jésus. Et normalement, ce démoniaque n'aurait jamais dû s'approcher de Christ. Les puissances de l'enfer qui possédaient cet homme auraient dû le bloquer, le maintenir, l'empêcher de s'approcher de Christ. Mais Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et lorsque Christ se déplace, c'est la gloire, la puissance de Dieu qui se déplace avec lui et qui donne la force à cet homme d'accourir vers lui, de se prosterner. Et il se passe quelque chose. Les démons commencent à trembler, à s'agiter. Ils ont peur parce qu'ils savent que c'est terminé. Ils savent qu'ils vont devoir quitter cette habitation qui n'a pas été conçue pour eux. Combien de fois je me suis regardé dans la glace alors que j'ai t'es complètement explosé à la drogue. Et je me demandais, mais qui tu es véritablement? Et j'entendais le diable qui me disait, tu n'es qu'un alcoolique, tu n'es qu'un drogué, un braqueur de banque, un gars méchant. Le diable me martelait tellement que je croyais à ses mensonges. Mais un jour, dans ma cellule, au milieu des rats, des cafards, dans cet endroit où tout le monde m'a abandonné, Jésus-Christ est venu à ma rencontre. Et lorsque j'ai réalisé l'amour, la grandeur de Dieu, j'ai découvert une vérité que l'homme n'a pas pu me révéler. Je ne suis pas alcoolique. Je ne suis pas un gars méchant. Je ne suis pas un gars mauvais. Même si ma mère, mon père m'a abandonné, je suis quelqu'un qui plaît à Dieu. Je suis la plus belle créature de Dieu. Et aujourd'hui, je vous assure que peu importe ce que le diable dit à mon sujet, je sais qui je suis, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Et j'aimerais vous encourager là-dessus. La parole de Dieu vaut les 1 000 milliards de mensonges que le diable essaie de vous injecter chaque jour. Ne croyez pas ce que le diable dit à votre sujet. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un échec. Vous n'êtes pas ce que le diable essaie de vous faire croire. Vous êtes des merveilleuses créatures. Il n'y a personne comme vous sur la terre. Et David l'avait bien compris cela. Voilà pourquoi il dit, je te loue Seigneur parce que je suis une merveilleuse créature. Et cet homme qui accourt vers Jésus-Christ réalise que Jésus-Christ est sa solution. Voyez-vous, alors qu'on le liait, il était indomptable, mais là, en présence du Seigneur, l'amour va triompher de sa colère. Il se laisse dompter par l'amour. Il réalise que Christ est sa solution. Les démons tremblent, supplient Jésus-Christ, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir quitter cette habitation. Oui, qui n'a pas été conçue pour eux. La réalité, c'est que Dieu s'est déjà tissé des temples. Dieu a choisi des pierres vivantes pour résider en eux. La vérité, c'est que tu es la résidence principale de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, dans sa parole, te dit, tu es ma lumière, tu es le sel de la terre, tu es un ambassadeur, tu es mon enfant. C'est ce que tu es. N'écoute pas les mensonges du diable. À la croix, Jésus-Christ a mis fin au règne du diable. Et aujourd'hui, il partage sa victoire avec tous ceux qui se tournent vers lui et l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Alors, les démons, eh bien, Jésus-Christ va leur permettre d'entrer dans des ports. Et il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé au sein de notre siècle, notre société. Le premier suicide collectif de porcs. Les porcs, plutôt que de vivre avec les démons, ils n'ont pas supporté la présence des démons. Ils ont préféré se suicider, se jeter dans la mer, plutôt que de vivre avec les démons. Et si les porcs n'ont pas supporté la présence des démons, à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas supporter la présence du diable dans notre vie. Alors les gens accourent pour voir ce qui s'était passé. Et là, ils voient le démoniaque complètement rétabli, restauré. Il est revêtu d'habits de justice. C'est une vie nouvelle, un nouvel avenir pour lui. Désormais, sa vie a un sens. Voilà le résultat d'une personne qui rentre en contact avec Dieu. Sa vie est transformée à jamais. On peut acclamer le Seigneur. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Luc 4, verset 17. Il est venu libérer les captifs, rendre la vue aux aveugles, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus-Christ est venu pour rétablir le règne de Dieu dans le cœur de l'homme. Je dis, Jésus-Christ est venu pour rétablir, réintroduire l'homme dans la présence de Dieu. Le diable a perdu et Christ a gagné. Je dis, le diable a perdu et Christ a gagné. Et aujourd'hui, le diable se présente devant toi. C'est un ennemi qui a été dépouillé à la croix. Il se présente dépouillé, démuni devant toi. Et il te dit, je contrôle ta vie. Je contrôle ton présent, ton futur, ton avenir. Mais moi, j'aimerais te dire qu'il ne contrôle rien du tout. La seule personne qui contrôle ton futur, ton présent, c'est Jésus-Christ. Il est l'alpha, il est l'oméga. C'est qu'avec lui que tout commence et c'est par lui que tout se terminera. Dieu aura toujours, je dis toujours, le dernier mot sur ta vie.
Alors, ce gars, il me fait penser, ce démoniaque, à mon frère. Et en réalité, mon frère avait un sérieux problème à l'âge de 16 ans. Il connaît sa première détention et il va connaître la prison 19 fois. Et à chaque fois qu'il va sortir de prison, il va être de plus en plus méchant, de plus en plus violent contre son prochain et contre lui-même. Et parfois, il arrivait à mon frère de prendre des lames de rasoir et de se taillader les jambes, de se taillader les bras. Son corps était devenu son exutoire. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez mon frère. Il était lié, polytoxicomane. Il a essayé de mettre fin à ses jours deux fois. Et il m'arrivait de voir mon frère en train de pleurer. Il s'approchait de moi, mon grand frère. Je le prenais dans mes bras, mais je n'avais pas de solution à lui apporter. Je lui disais, mais ça va s'arranger, tu verras avec le temps. Tu vas te rétablir, tu vas guérir, tu vas vivre une nouvelle vie. Mais je n'avais pas de solution à lui apporter. Et j'aimerais tellement qu'il soit là aujourd'hui. J'aimerais tellement qu'il soit présent pour entendre ce message. J'aurais dit à mon frangin, je connais une personne qui peut changer ta vie. Je connais une personne qui peut te libérer de la drogue. Je connais une personne qui peut te faire renaître avec l'espoir. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Mais mon frère n'est plus là. Mais mon message n'a pas changé. Je connais une personne qui peut changer votre vie. Je connais une personne qui peut vous faire renaître avec l'espoir. Je connais une personne qui peut solutionner votre problème. Cette personne, c'est Jésus. En conclusion, à la fin, ce démoniaque, il veut faire qu'une chose, emboîter le pas de son maître et monter dans la barque. Mais Jésus-Christ va lui dire, non, va vers les tiens, va dans ta maison et raconte. Mais ce démoniaque, il avait une maison, il avait un problème, et la société, pour résoudre son problème, l'a enterré vivant. Voilà la solution que le monde lui a apportée. Et moi, je vois ce démoniaque rentrer chez lui, frapper à la porte. Je vois sa femme, ses enfants, lui ouvrir la porte en larmes, sa femme lui dire, « Mais je pensais que tu étais mort. Je pensais que tu étais fou, qu'on t'avait lié, qu'on t'avait enterré dans les sépulcres. J'ai dit aux enfants que plus jamais ils ne reverront ton visage. Je pensais que tu étais mort. » Je vois ce gars en train de pleurer amèrement et dire à sa femme, ses enfants, mais c'est vrai que j'étais mort. C'est vrai que j'avais perdu la raison. C'est vrai qu'on m'avait lié avec des chaînes. Et chaque jour, c'était un calvaire pour moi. C'est vrai que j'étais mort. Mais dans mon gouffre, dans mon néant, dans mon cachot, dans mes ténèbres, au milieu des tombes, le Yahvé, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a visité et il m'a rendu la vie. Et cet homme ne s'est pas contenté simplement de témoigner à sa femme et ses enfants. Il nous a dit qu'il a publié l'évangile dans toute la Décapole avec un seul message, la grâce de Dieu. Pas un an, je peux parler de la grâce de Dieu comme ce pauvre pécheur qu'il a expérimenté. Alors j'aimerais inviter les gens qui se sont interpellés par ce message. Et avant de vous quitter, je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Peu importe votre état, peu importe où vous en êtes, peu importe ce que vous êtes, Dieu est votre solution. Faites un pas de foi, levez-vous là où vous êtes, et je veux conclure par la prière. Merci Seigneur pour ces personnes qui se lèvent, prennent une décision devant toi. Il y a bien d'autres personnes, peu importe votre état, j'ai dit, peu importe votre état, faites un pas de foi. Il y a bien d'autres personnes qui sont concernées. Ne restez pas sur votre chaise comme s'il y avait une solution. Il n'y a pas de solution sur la chaise, il n'y a pas de solution. La solution, elle vient de Dieu. Et alors que tu fais un acte de foi, je t'assure que Dieu le voit et Dieu sera honoré. Dieu saura te le rendre. Prends une décision ce matin. Fais un pas de foi vers le Seigneur. Je réédite pour la dernière fois. Y a-t-il une personne qui a besoin du Seigneur? Je crois que tout le monde devrait se lever en réalité. Car dans une zone de notre vie, nous le savons, nous avons besoin de Dieu. Seigneur, merci pour ces gens qui se lèvent. Merci pour les décisions qui sont prises. J'ai apporté ton message, Seigneur, et ton esprit l'a libéré dans les cœurs. Et ce matin, je sais que tu vois, et je sais que tu vas pourvoir. Alors que nous prions, nous t'invoquons, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, grâce, faveur, Seigneur. Je te demande de toucher le cœur de tes enfants. Je te demande de rétablir, Seigneur, l'ordre des choses, de te mettre en avant.
Je te demande d'éradiquer, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire dans leur vie. Fais ton œuvre, mon Dieu. Ce que tu as fait dans tant de vies, tu es capable de le faire dans leur vie. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta provision. Merci pour ton amour. Et nous prenons l'engagement ce matin de nous blottir dans tes bras d'amour pour ne plus jamais, jamais en ressortir. Sois le maître de notre vie, le gouverneur de notre cœur. Règne, Seigneur, partout, dans tout notre être. Nous t'avons prié, Seigneur, et nous croyons, Seigneur, que tu as déjà exaucé. Que le peuple de Dieu dise amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.
Je pense que ça vous donne envie de louer Dieu, non? Qu'est-ce que Dieu fait des belles choses. Amen. On va célébrer le Seigneur ensemble. Je sais que vous venez de vous asseoir, mais moi j'ai quelque chose qui me démange de me relever pour Jésus. Est-ce qu'on peut prendre un chant? On va passer par nos offrandes. Est-ce qu'on peut passer par un vrai moment de louange et de remerciement à Dieu? Vous avez tellement de choses à donner au Seigneur pour le remercier. Je ne parle pas que d'un point de vue financier, de votre cœur, votre âme, votre temps. Que vous soyez passionné pour Dieu parce qu'il a été... passionné pour vous, il est passionné par vous. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ensemble, Scott, avec toute l'équipe, on peut célébrer? Puis après, si c'est possible que les frères désignés pour les offrandes puissent s'avancer également. Voilà. Offrons au Seigneur reconnaissance, est-ce que vous êtes d'accord? Son amour dure à jamais.
Jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons.
Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour durera jamais. Ensemble, son amour durera jamais. Chantons, son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, chantons.
À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais.